L'accueil que fait la population à ces internés est extraordinaire. On a toute la population qui s'est massée à la gare de Saint-Imier. On a d'ailleurs dans la revue une image qui montre cet accueil où les gens sont massés dans les rues. On en voit même sur le toit, sur les talus. Et on est là pour accueillir des personnes à qui on va donner l'hospitalité.
Ces hommes viennent principalement du nord de la France, ils sont soldats et civils. Comment est-ce qu'ils sont devenus des internés de guerre ?
Alors c'est un petit peu compliqué en fait cette histoire des internés, compliqué à comprendre parce qu'il y a des soldats et les soldats, bah, c'est simple, c'est des personnes qui étaient sur le champ de bataille qui ont été faits prisonniers. Ce qui est plus difficile à comprendre aujourd'hui, c'est que quand l'Allemagne a envahi le nord de la France, elle a fait prisonniers des civils. Donc il y avait des hommes en état de combattre, des femmes et des enfants aussi, qui ont été faits prisonniers. Et ces personnes ont été enfermées dans des camps de prisonniers en Allemagne. Et à partir d'un certain moment, la Suisse a offert ses bons offices à l'Allemagne et à la France en particulier. Et pour le faire assez simple, les prisonniers ont eu l'opportunité de venir en Suisse. Donc la France a envoyé un certain nombre de prisonniers allemands en Suisse et l'Allemagne a envoyé un certain nombre de prisonniers français en Suisse.
Certains d'entre eux vont rester en Suisse durant environ 2 ans jusqu'à la fin du conflit. Alors pour vivre, ils reçoivent des soldes de leur pays d'origine, mais il faut aussi les occuper, Sylvia Masserly.
Alors il faut les occuper, bien sûr. Alors je crois que la première volonté dans l'occupation que l'on veut atteindre, ou le premier objectif que l'on veut atteindre, c'est de ne pas laisser des hommes désœuvrés. Parce que ces personnes sont hors de leur pays, sont coupés de leur famille, et il faut à ce moment-là éviter une pression psychologique ou une tension psychologique très forte. Et un autre élément, moi, c'est bien sûr l'aspect économique des deux parties, pour les internés parce que ça leur permet d'avoir un peu d'argent, pour la Suisse parce que c'est une main-d'œuvre, alors qu'une bonne partie des hommes suisses sont mobilisés.
Est-ce qu'il y a quand même des tensions entre la population et ses internés ?
Alors, il y aura des tensions entre les internés français ou belges dans la partie alémanique et les internés allemands dans la partie francophone. Et on a des témoignages qui montrent que, on cite souvent le même exemple, un interné français entre dans un magasin ou dans une laiterie, je ne sais plus, de Suisse allemande, et il se fait dire on n'a pas de lait, on n'a pas de beurre pour les Français. Par contre, il y aura vraiment dans les parties respectives un accueil très très fort des internés, et on voit que, si on prend l'exemple précis de Saint-Imier, il y aura des concerts qui seront organisés pour les internés. Il y aura des personnes qui feront des collectes pour donner des montres. On est dans un pays horloger. Donc les internés de Saint-Imier recevront des montres. On voit après, une fois que les internés seront partis, que le contact reste avec ces internés, qu'ils continuent de recevoir des cartes postales. Donc on a des tensions, mais en même temps, dans les population même, on a un accueil très fort, en tout cas au départ.
Vous évoquez aussi dans l'un des articles que vous avez écrit, vous relatez l'accident mortel à ski de Louis Griffet sur la route entre Montsoleil et Saint-Imier. Quel impact a cette mort, que ce soit sur les internés et la population ?
Alors sur les internés, c'est toujours très fort de voir un de ses camarades mourir et mourir dans des conditions qui sont terribles. L'interné quitte Montsoleil à ski et meurt dans la neige. Enfin, il va mourir un ou deux jours après, mais c'est vraiment un accident de ski. Sur la population, ce sera sera aussi un impact très fort dans la mesure où on se dit mais les personnes qu'on a accueillies meurent, on va faire une tombe en l'honneur de cet interné et la population va récolter de l'argent.
Et finalement, cette tombe, elle est toujours à Saint-Imier.
Cette tombe, elle est toujours à Saint-Imier. Et d'ailleurs, le fait d'avoir ressorti cette histoire des internés a fait prendre conscience de la présence de cette tombe et la municipalité de Saint-Imier l'a récemment restaurée.
Et finalement, quelles traces ont laissé les internés en Suisse ?
Alors, Je pense qu'elle est forte pour ceux qui connaissent cet épisode. Je pense que surtout, on est dans la représentation parfaite de la Suisse, dans sa tradition humanitaire, dans sa tradition d'accueil. Les traces sont aussi palpables parce que certains des internés se sont installés en Suisse.
J'allais justement vous demander, il y en a qui sont restés donc.
Alors il y en a qui sont restés, d'ailleurs c'est intéressant, il y a un journal des internés français qui s'appelle précisément Journal des internés français, qui paraît et qui est destiné aux internés, et on voit au fur et à mesure du temps qui passe l'inscription de mariage dans ce journal, et puis après l'inscription de naissance. Et il y a passablement d'internés qui sont restés ici.
Votre dossier se base sur une correspondance. Comment est-ce que vous avez mis la main sur cette correspondance ?
Alors c'est plutôt la correspondance qui est venue à nous. La correspondance de Lydia Clotu et d'Henri Castel est restée pendant longtemps dans la famille de Lydia Clotu. Et à un moment donné, une des personnes de cette famille s'est intéressée particulièrement à son histoire, à l'histoire de sa famille, a fait des recherches et a trouvé ses lettres, a retrouvé ses lettres, et puis les a lues. Et dans l'échange qu'on a pu avoir avec cette personne, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'important à faire en mettant ces lettres en valeur. Et cette façon de mettre les lettres en valeur, c'était aussi une façon de donner la parole à quelqu'un qui, normalement, n'a pas la parole. On ne voit pas la Première Guerre mondiale à travers les yeux d'une femme. On ne la voit pas non plus à travers les yeux d'un prisonnier, souvent.
Est-ce que vous pouvez nous dresser le portrait des deux protagonistes de cette correspondance de guerre, c'est-à-dire un interné français, Henri Castel, et sa marraine de guerre neuchâteloise, Lydia Clotu?
Alors Henri Castel, il se présente lui-même quand il doit chercher une marraine. C'est un extrait de texte qu'on a laissé dans ce dossier, et il dit en des phrases, en quelques mots en fait, qui il est. Je vous lis peut-être ces quelques mots. C'est les premiers qu'il envoie à sa marraine, et il dit: chère marraine, je viens de recevoir une lettre par l'intermédiaire de votre chère cousine. Et il ajoute: étant prisonnier de 17 mois et ne recevant rien de chez moi, j'habite Roubaix, je suis trieur de laine, âgé de 32 ans, père d'un enfant. Voilà, ce sont les informations qu'on connaît à propos de cet Henri Castel, en plus du fait qu'il est prisonnier précisément. Et puis Lydia Clotu, c'est une femme qui naît en 1889. Elle habite à Courneau, dans le canton de Neuchâtel. Et on sait d'elle que c'est une femme réservée, c'est ce que m'a raconté sa famille. C'est une femme qui s'est beaucoup donnée aux autres. Et le témoignage qu'on en a, c'est précisément celui de cette correspondance avec Henri Castel. Et elle a également eu deux autres prisonniers de guerre, deux autres correspondants durant la Première Guerre mondiale.
Alors, Lydia Clotu devient la marraine de guerre d'Henri Castel, alors que celui-ci est encore en Allemagne. Vous avez retrouvé les lettres et les cartes envoyées par le Français. Alors, qu'est-ce qu'ils s'y racontent, en plus de ce que vous venez de lire, et est-ce qu'ils arrivent à se rencontrer un jour ?
Alors, au départ, ils s'y racontent des choses très basiques. Quand Henri Castel est prisonnier en Allemagne, finalement, ce qui se dit, c'est des choses du besoin primaire du prisonnier, qui est celui d'avoir à manger, d'avoir un savon, d'avoir des habits. Ce qui est particulièrement remarquable dans cette correspondance, c'est que en venant en Suisse, Henri Castel se retrouve à quelques kilomètres de Lydia Clotu, et du coup le lien devient beaucoup plus fort et la correspondance va être beaucoup plus soutenue. On a presque une lettre tous les 10 jours quand on regarde ça, et les échanges se feront alors toujours dans le but de remonter le moral à cet homme ou d'être là pour cet homme, et oui, un jour ils se rencontreront.
Bon, on aurait presque envie de dire, est-ce qu'ils vont se tomber amoureux ? On pense pas, c'était pas le rôle des marraines de guerre.
Alors, il y a toute une série d'histoires autour des marraines de guerre, en particulier en France, où on les présente comme des femmes fatales et des femmes faciles, et où les prisonniers, parce qu'il n'y a pas que des prisonniers qui ont des marraines de guerre, il y a aussi les soldats qui sont au front qui ont des marraines de guerre, et où les soldats multiplient les marraines dans le but d'avoir plusieurs conquêtes. Mais c'est pas du tout le but de cette correspondance-là, c'est pas du tout le but de la grande majorité des correspondances de guerre avec les marraines. Et on voit que les premiers mots que donne Henri Castel, c'est de dire « je suis marié et je suis père d'un enfant ». Donc il est très clair dans son rapport-là.
Finalement, c'est quoi qu'il recherche plus ? C'est des biens, j'ai envie de dire, matériels. Il y a par exemple, on demande du savon ou du chocolat, ou c'est vraiment ce soutien moral ?
Alors au départ, c'est un besoin matériel. Et on le voit avec le deuxième correspondant de Lydia Clotu, qui reste, lui, prisonnier en Allemagne et qui souffre de la faim et qui souffre de manque physique. Et la correspondance reste sur ses besoins basiques. Pour Henri Castel, c'est un tout autre rapport qui se met en place. Et en donnant des cerises, par exemple, en donnant du raisin, Lydia Clotu donne autre chose que de la nourriture. Elle donne une partie de ce qui est chez elle. Elle donne une partie de sa propre personne, finalement.
Henri Castel va quitter la région en août 1917 pour retourner en France. Mais c'est pas pour autant qu'il oublie sa marraine. Alors je vais vous lire un extrait d'une lettre qu'il envoie depuis Saint-Denis en février 1918. « Chère marraine, merci pour votre lettre qui m'a fait un très grand plaisir de la recevoir car je croyais que j'avais commis une faute envers vous et me faisait bien de peine. Enfin, me voilà revenu heureux d'avoir reçu votre lettre et merci. Pour le moment, je suis livreur chez un quincailler car je ne peux pas aller à l'usine car je deviens malade tout de suite. J'espère que si les moyens me permettent de retourner à Saint-Imier, travailler, j'y retournerai de suite, car j'ai un cafard de votre beau pays. Ici, je suis seule et sans nouvelles de ma famille, et pas moyen d'en avoir, alors voyez si c'est plus triste que chez vous. » Donc on voit qu'il y a vraiment un attachement à cette personne, comme vous dites, c'est fort.
Il y a un attachement très fort, parce que Henri Castel a été pendant des mois et des mois prisonnier tout seul. Après, il vient en Suisse et il y a ce lien avec la personne. Et après, il retourne en France, mais la France est occupée. Donc, il n'arrive pas à retourner chez ses parents. Il est plus seul en France qu'à Saint-Imier. Alors qu'il est en France, il reçoit encore de nombreuses cartes postales d'autres personnes de Saint-Imier. Il y a cette peur aussi de couper le lien avec sa marraine, hein, dans l'extrait que vous avez lu, en disant « mais est-ce que j'avais fait une faute pour que vous soyez comme ça dans un silence ?» Et puis, il y a aussi le fait, quand il sera en France, de dire « mais je veux revenir à Saint-Imier ». Et il fera toute une série de démarches pour revenir travailler à Saint-Imier ou revenir vivre à Saint-Imier.
Est-ce qu'on sait ce qu'est devenu Henri Castel ?
Alors non, pas encore. Enfin, je pense qu'on va poursuivre les recherches maintenant. Le but est d'aller un peu plus loin. On sait que Henri Castel subira un accident très fort. C'est presque les dernières lettres qu'il écrit. C'est dans une des dernières lettres qu'il écrit. Et après, on perd sa trace.
Donc vous allez aller maintenant à sa recherche.
On va partir à sa recherche. On continue de partir à sa recherche parce qu'on a déjà fait quelques démarches.